souvenirs pour écouter Stevie Wonder, Sir Duke, que de souvenirs. Il est minuit sur Europe 1. C'est un dernier tour de l'info avec vous, Maëlle Hassani, bonsoir.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. 100 tonnes de nourriture distribuées ce mercredi à Grande Terre et 20 tonnes à Petite Terre. L'acheminement de nourriture se fait petit à petit à Mayotte, 4 jours après le passage du cyclone Chido. L'archipel totalement dévasté, les habitants manquent d'eau, de nourriture mais aussi d'électricité. Le réseau de téléphonie mobile est toujours disponible à 80%, 22 morts et 1373 blessés recensés à ce stade par les autorités, mais le véritable bilan est assurément beaucoup plus lourd. Emmanuel Macron va se rendre à Mayotte jeudi. François Bayrou promet de faire le déplacement lorsque son gouvernement sera formé. Le Premier ministre sous le feu des critiques depuis son déplacement à Pau pour présider le conseil municipal lundi soir en pleine crise à Mayotte. En tentant de se justifier devant les députés ce mardi, le locataire de Matignon a semblé faire une bourde en situant Mayotte en dehors du territoire national. Dans le même temps, François Bayrou et Emmanuel Macron continuent de discuter de la formation du futur gouvernement. Deux entretiens ont eu lieu ce mardi à l'Élysée. Selon des sources parlementaires, le Premier ministre envisage de nommer une équipe resserrée, 25 ministres issus du centre, de la droite et de la gauche. La liste pourrait être dévoilée d'ici la fin de la semaine. Marine Le Pen s'attend à tous les scénarios dans les prochains mois. La chef des députés Rassemblement National dit se tenir prête à participer à une présidentielle anticipée. C'est ce qu'elle affirme dans un entretien accordé aux Parisiens aujourd'hui en France ce mercredi. Elle prévoit ainsi une potentielle démission du président de la République. Sa situation est très fragile, assure Marine Le Pen. Après le meurtre d'un adolescent de 16 ans à l'arme blanche près d'un lycée du 13e arrondissement de Paris ce mardi matin, l'enquête, d'abord ouverte pour meurtre, est requalifiée en assassinat par le parquet de Paris. Un premier suspect a été interpellé. Il pourrait s'agir de l'un des participants à cette rixe mortelle, sans que l'on sache s'il a lui-même porté le coup fatal. Plusieurs centaines de soldats nord-coréens tués ou blessés dans la région russe de Koursk. Estimation d'un haut responsable militaire américain ce mardi soir, alors que l'armée russe, appuyée par des renforts envoyés par Pyongyang, est en train de mener une contre-offensive d'ampleur dans ce secteur partiellement contrôlé par l'armée ukrainienne depuis l'été dernier. C'est l'une des controverses médicales les plus retentissantes des dernières années. L'étude du professeur Didier Raoult visant à démontrer l'efficacité de l'hydroxychloroquine contre le Covid est officiellement invalidée. L'éditeur de la revue dans laquelle cette étude avait pourtant été publiée en mars 2020 reconnaît des manquements liés à la méthodologie et à l'éthique de publication. La Cour des comptes dresse un premier bilan sévère du pass culture lancé en 2021 par Emmanuel Macron. Cette enveloppe de 300 euros attribuée aux 15-18 ans et dédiée aux activités culturelles n'est pas parvenue à toucher les plus modestes et le coût pour l'État a plus que doublé en l'espace de 3 ans selon les sages. La Cour des comptes relève également que 16 millions d'euros ont par exemple bénéficié à des escape games faute de contrôle. Et puis l'immense Cesaria Evora nous a quitté il y a 13 ans jour pour jour, la chanteuse capverdienne qui a popularisé la morna auprès du grand public. Parmi ses nombreux succès, Sodad, sorti en 1992. Sodad, 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 this my first and in cloud. Si vou escrever, muito a escrever. Si vou esquecer, muito a esquecer. Até dia que vou voltar. Se você não tá esquecendo.
Cesaria Evora, qui a amené un véritable style.
Hein. La Morna, absolument.
La Morna, qui reste très populaire là-bas et qui a fait des petits, hein, puisqu'il y a beaucoup de groupes, quand vous allez à Cuba, qui jouent ce style, c'est la
Morna.
La Morna, absolument. D'accord. Vous aimez bien tout ça.
J'adore. Oui, non, j'aime
beaucoup. Vous êtes un mélancolique, hein, parfois.
Vous trouvez?
Je sens.
Vous trouvez?
Non, mais vous aimez aussi les chansons profondes. Voilà. C'est bien. C'est bien. Vous avez des goûts divers et éclectiques.
Bien sûr. Hein. Et j'espère que je suis sûr que les auditeurs d'Europa aussi. Donc, c'est important de diffuser tout style de musique dans ces flashs.
Complètement. Vous avez raison. Mais écoutez, passez une bonne nuit, en tout cas. Faites de beaux rêves. Et puis, revenez-nous en pleine forme dès demain, mon cher Maël.
À demain.
À demain.
Europe 1, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Que j'ai parlé de Cuba, mais il est plutôt question du Cap Vert, hein, pour Cesaria, bien évidemment. Pardonnez mon erreur, chers amis. Il est minuit 7, vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1, et si vous voulez, comme Hélène l'a fait durant la première partie de cette émission, venir me parler, n'hésitez pas à composer le 01 80 20 39 21, je suis là pour vous écouter. Et puis, pendant toute le mois de décembre, la grande famille Europe 1 vous invite à un Noël magique. Chaque jour, Sophie Davant ouvre une case du calendrier de l'Avent d'Europe 1 pour découvrir l'histoire merveilleuse qui s'y cache, racontée par vos animateurs d'Europe 1. Donc demain, c'est Tombline Roche qui nous raconte l'histoire d'un chant de Noël intitulé Nuit de neige et écrit par un certain Guy de Maupassant. Les plus belles histoires de Noël à découvrir chaque jour en podcast sur le site et sur l'application d'Europe 1. Nous accueillons Frédéric maintenant sur la libre antenne. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir, d'où m'appelez-vous?
Je vous appelle de Béthune dans le Pas-de-Calais.
D'accord, et quel âge avez-vous Frédéric?
J'ai 54 ans.
D'accord, de quoi voulez-vous me parler, dites-moi.
Alors je vous appelle parce que j'ai écouté la semaine dernière le témoignage de Lucie, une infirmière qui travaille en psychiatrie.
Oui.
Qui a subi une agression de la part d'un adolescent.
Oui.
Donc moi je suis éducateur spécialisé et j'ai été également agressé. Donc c'était le 19 mars 2021.
D'accord. Dans quelles circonstances ça s'est passé, comment?
Bon, en fait j'accompagnais un patient schizophrène. Donc sur une démarche administrative, donc sur l'île, puisque je dépends d'un pôle de psychiatrie sur l'île.
Oui.
Donc je suis allé le chercher à son domicile, ça s'est très bien passé, j'étais accompagné d'une aide-soignante.
Oui.
On s'est rendu devant l'administration, on était un petit peu en avance. Et je sors du véhicule pour payer le rodateur. Et à ce moment-là, il me demande de revenir vers le véhicule. Donc, moi, je lui dis, soit vous restez dans le véhicule ou vous me rejoignez dans la rue.
D'accord.
Et là, il vient vers moi. Donc, je ne m'attendais pas du tout à être agressé. Il vient vers moi, il se plante devant moi et il me dit, tu vas voir ce que tu mérites. Et là, il prend mes lunettes, il les casse, il me met un coup de poing, donc là je suis sonné.
Oui.
Il me prend le bras, donc il me met le bras gauche en luxation arrière. Je tombe dans la rue et il revient vers moi, il me met un grand coup de pied dans le thorax. Je tombe. Et là, il m'achève au sol.
Oh non.
Donc, le réflexe que j'ai eu, c'est de me mettre en boule. j'entendais ma collègue crier. Alors, je sais pas combien de temps ça a duré. Pour moi, c'était assez long. Et en fait, ce que disait Lucie, il arrive un moment où, en fait, je pense que le cerveau se déconnecte.
Oui.
Et donc, j'étais au sol et je me suis vu. Alors, Lucie, elle dit qu'elle s'est vue dans une pièce noire.
Mmh.
Moi, je me voyais tout petit au milieu d'un désert. Et j'ai complètement lâché prise. Et je me suis dit, ça y est, t'es mort.
Ah oui, vous avez carrément cru qu'il allait vous tuer.
Ouais, ouais. Donc j'ai complètement lâché prise. Et donc j'ai pensé à mes proches, aux gens que j'aimais. Mmh. Et en fait, je me suis dit, c'est terminé, t'es mort. Et c'est un peu bizarre comme sensation parce que je me dis, si c'est ça la mort, c'est bien. Parce qu'en fait, j'avais plus aucune sensation.
Mm-hmm.
Ensuite, il me frappait, mais en fait, il me donnait des coups comme s'il tapait dans un sac. Hein.
Mm-hmm.
Et à un moment, ça s'est arrêté. Et le réflexe que j'ai eu, c'est de courir dans la rue. Et en fait, j'étais dans le centre-ville de Lille et je me suis dit, il faut que j'aille très vite où il y a du monde, en fait. Et il m'a rattrapé.
Vous a rattrapé?
Il m'a rattrapé. Et là, j'ai eu un sursaut, j'ai crié. Il est parti. Et il y a trois messieurs, alors c'était trois SDF. Donc je me souviens très bien d'un monsieur qui était habillé tout en blanc, lui manquait un bras, et ils m'ont caché dans un hall d'immeuble. Et en fait, ma collègue, elle était sans réaction. Donc je sais pas qui a appelé les secours. Donc j'étais réfugié dans ce hall d'immeuble.
Oui.
Donc la police est arrivée, les pompiers. Je me suis identifié avec je me suis présenté, j'ai expliqué que j'étais éducateur, que je venais de me faire agresser.
Oui.
Donc la police est partie, ils l'ont pas retrouvé. J'ai été conduit aux urgences. J'ai été pris en charge très 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 vite. Et en fait, j'avais une luxation externe de l'épaule.
Oui.
Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que au début de l'agression, c'était vers 14h30. Je pense que je suis arrivé aux urgences, il devait être 16h.
Oui.
C'est seulement arrivé aux urgences que j'ai senti les douleurs. Donc j'avais le bras quasiment derrière.
Oui.
Ils n'ont pas réussi à réduire la luxation. Donc dans la foulée, je suis parti au bloc opératoire. Et j'ai été opéré.
Ah oui, directement comme ça, d'accord.
Ah oui, en fait, en gros, l'histoire, de 14h30 à 16h30, 17h, j'étais dans le feu de l'action, en fait.
Oui, et puis c'est surtout si vous avez été opéré directement, c'est que vous deviez avoir tout ce qui est ligaments arrachés, ouais. Très endommagés, et qu'il fallait opérer tout de suite.
Ouais. Donc, voilà. Donc, je suis resté aux urgences. Je suis rentré donc de Lille à Béthune, je suis rentré en ambulance. Sur le trajet, j'ai reçu un SMS de la directrice de l'EPSM de Lille.
Oui.
Alors un très très beau message, hein. J'avais l'impression d'être un héros. Et donc je suis rentré chez moi, très endolori, hein.
Mais oui, vous m'étonnez.
Avec deux côtes cassées.
Deux côtes cassées, d'accord, oui, il n'y est pas allé en main morte.
il m'a démoli. Hein. C'est
et ce patient avait déjà eu ce type de souci ou c'était la première fois qu'il faisait ce genre de choses?
Alors moi personnellement, ça faisait à peu près une année et demie que je le suivais.
Il vous connaissait?
Donc ah oui, il me connaissait très bien. J'avais jamais eu de problème avec lui.
Quel âge avait-il?
29 ans.
D'accord.
Alors moi, je mesure 1m80 de corpulence normale. Lui, fait 1m95. Assez baraqué. Je pense que personne n'aurait pu résister à sa violence.
D'accord. 1m95 déchaîné, ça a dû être quelque chose, mon Dieu.
Ah oui, oui. Franchement, c'est... Alors, je sais pas. En fait, quand il s'est planté devant moi, j'ai tout de suite senti ça allait être grave et dangereux, mais j'ai été sans réaction. Je me suis pas défendu.
Vous ne vous êtes pas défendu. Ça aurait pu être pire si vous vous étiez défendu, vous pensez?
Ouais, je pense. Ouais, je pense. Mais de toute manière, d'une façon physique, je pense pas que j'aurais pu. Résister à sa violence. Du coup, je suis rentré chez moi. J'avais l'impression d'être passé dans une machine à laver. Hein. C'était. Donc j'avais. Je suis rentré avec un dujarrier. Pendant une semaine, un peu plus, je pouvais pas m'habiller seul. Donc, c'est ma compagne qui s'occupait de moi. Après, qu'est-ce que je pourrais expliquer? Ensuite, j'ai été convoqué par la médecine du travail et ils ont diagnostiqué un syndrome post-traumatique.
Mmh. Ben oui, bien sûr.
Donc ça fait 3 ans. Pendant presque 2 ans, j'ai consulté une psychologue sur Arras.
Vous ne pouvez pas retravailler? Vous étiez dans...
Alors là, je suis en accident de travail.
Oui.
Donc, je suis en accident de travail. J'ai toujours des séquelles au niveau de l'épaule. J'ai fait un IRM il y a un mois. J'ai vu un rhumatologue. Et là, je vais peut-être être opéré de l'épaule.
À nouveau?
Ouais, parce qu'en fait, les ligaments et les tendons, ils sont distendus.
D'accord. Et oui, parce que l'épaule, c'est quelque chose de très fragile.
Ouais.
Très donc, fragile.
Donc au quotidien, je dois faire des, enfin, je dois tondre ma pelouse, des choses comme ça.
Oui.
Mais j'ai toujours l'épaule. En fait, dès que je fais des petits travaux comme ça.
Oui, vous avez mal après.
J'ai une douleur, j'ai le bras qui est endormi.
Oui, c'est l'épaule est très très le coude et l'épaule.
Ouais.
C'est entouré de ligaments, c'est vraiment très fragile. Ouais. D'autant plus si en tapant, si vous me dites que vous aviez le bras derrière, il est fort possible que votre épaule enfin vous voyez que votre le haut de votre bras soit sorti de l'épaule.
Ouais.
Voilà. Et là, ça a dû vraiment faire des dégâts profonds.
Mais je me souviens, quand je suis monté dans l'ambulance des pompiers, je pouvais pas m'allonger, je pouvais pas m'asseoir. Enfin, ça faisait vraiment très, 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 très mal. Donc j'ai été suivi sur Arras, c'est les consultations du psychotraumatisme. Bon, en fait, c'est la cellule qui s'est occupée de le prof qui s'est fait assassiner à Arras, là, par exemple.
Oui.
Ce sont eux qui ont pris en charge les enseignants et les élèves. Mmh. Donc j'allais là-bas. Donc j'ai fait pendant presque 2 ans un récit traumatique.
Oui, parce que dans la tête. Comment ça va dans la tête pour vous aujourd'hui? Ça vous est impossible à nouveau de vous occuper de ce type de patient, je suppose?
Non. En fait, j'ai vu un expert psychiatre que je voyais tous les 6 mois. Et en fait, d'un commun accord, je peux plus m'occuper de patients.
Oui, oui, oui.
Donc là, ce qui est décidé, c'est un reclassement.
D'accord. Dans quel type de poste?
Les EPSM, les hôpitaux psychiatriques, c'est quasiment comme des villes. Donc il y a plein de métiers.
Oui, oui.
Donc ça sera un travail administratif où ils vont me proposer une formation. Enfin, je sais pas trop quoi. Mais c'est très long parce que là, je dois revoir un expert le 27 mars. Parce que le premier expert a évalué un taux d'IPP de 30% concernant mon syndrome post-traumatique.
D'accord, donc un IPP, c'est quoi un IPP?
Je pense que c'est une indemnisation.
D'accord.
Mais à ça va peut-être se rajouter le problème de mon épaule.
Écoutez, de toute façon, ils vont vous remettre dans un endroit où vous ne serez plus confronté à ce type de patients. Et puis, sans doute, par rapport à votre épaule, plus de travaux physiques. Hein. C'est terminé.
Non. D'après le rhumatologue, j'ai perdu 40% de la capacité de mon bras. Hein. C'est important, ouais. Quoi.
Et dans la tête, ça va mieux quand même aujourd'hui, Frédéric?
En fait, ça va mieux. Honnêtement, enfin, ça fait un peu plus de 3 ans. Pendant 2 ans, ça a été très, très, très compliqué. Et à chaque fois que j'allais voir la psychologue travailler sur le récit traumatique, en fait, le récit traumatique, vous revivez votre journée à partir du moment où vous quittez votre domicile jusqu'à l'accident et le retour chez vous. C'est un travail qui se fait un petit peu en hypnose.
Oui.
Et à chaque fois, il y a des éléments qui se rajoutent alors que on n'y pense pas. Franchement, quand on quitte la psychologue, on est complètement cuit. Hein.
Je comprends.
C'est traumatisant.
Mais je pense que vous avez vécu un choc là doit vous éloigner, ouais, maintenant de ce type de mission, quoi. C'est plus possible, ouais, quand on a vécu un choc comme ça, parce que je suppose que vu que vous connaissiez très bien ce patient, vous ne vous, ouais, attendiez pas du tout à ce type d'agression, en fait.
Absolument pas.
Donc, non. Quand on a vécu ce genre de choses, après, c'est difficile. Certaines personnes nous disent qu'il faut y retourner tout de suite. Mais bon, il faut pouvoir le faire. Pas évident de retourner tout de suite.
Trois mois après l'accident, j'ai vu le médecin du travail et il m'a fait une batterie de tests et il m'a dit monsieur, vous avez un syndrome post-traumatique, quoi. C'est plus possible de reprendre le travail. Mais je m'attendais pas à ça. Hein. J'ai quand même un vécu professionnel assez riche. J'ai commencé en maison d'enfants à caractère social. J'ai travaillé en IME. J'ai travaillé en maison d'accueil spécialisée pendant 15 ans. Et puis là, sur ce pôle de psychiatrie, ça faisait 3 ans.
Oui, donc vous connaissiez bien ce milieu de la santé mentale.
Oui, j'ai de l'expérience.
Oui. Bah comme quoi, voilà, ça peut arriver. Bon, bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite bonne continuation. Normalement, vous devriez reprendre le travail dans peu de temps, là, maintenant.
Je pense pas avant mars.
D'accord. Bon, bah ça vous laisse encore un petit peu de temps pour vous remettre d'équerre, comme on dit, hein.
Ouais, c'est ça.
Bon courage à vous, Frédéric.
Ben, je vous remercie, Olivier.
Et puis, bonne chance pour le nouveau poste. Et puis, dormez bien, faites de bons rêves.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Scorpion sur Europe 1, Always Somewhere. Il est 00h30, vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1 et vous pouvez composer le 01 80 20 39 21. Le standard d'Europe 1 vous est ouvert. Et peut-être aurai-je le plaisir de vous écouter tout à l'heure. Michel Drucker vient de fêter ses 60 ans de carrière. Pour Europe 1, dans un podcast exceptionnel, Destin extraordinaire, Michel Drucker se raconte ses débuts difficiles dans le métier, ses années Europe 1, ses souvenirs de télévision, Destin extraordinaire. C'est Michel Drucker raconté par Michel Drucker, un podcast extraordinaire, inédit, à écouter dès maintenant sur le site et l'application Europe 1. Nous accueillons Pechka maintenant sur la libre antenne. Bonsoir Pechka.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Pechka ?
De Marseille.
De Marseille. Et quel âge avez-vous ?
78.
D'accord. De quoi voulez-vous me parler, Pechka ? Dites-moi.
Eh bien, je ne sais pas si Florian il vous a expliqué. Je l'avais discuté avec lui auparavant.
Non, il ne m'a pas expliqué du tout. Vous allez m'expliquer tout. Que se passe-t-il ?
Eh bien, je voulais vous demander, est-ce que c'est possible que 40 ans après... qu'on peut savoir qu'on est divorcé 40 ans après.
Alors, comment ça ? Je ne comprends pas votre question, en fait.
C'est-à-dire que j'étais mariée, quoi, et puis j'ai quitté mon mari.
Oui.
J'ai quitté mon mari, je suis partie, et puis... mais je suis partie, pas tout seul, je suis partie avec la police. J'ai appelé la police à la maison parce que moi, je n'ai pas attendu... une gifle, mais pas deux.
D'accord.
J'ai appelé la police qui est venue à la maison. Je suis partie avec la police au commissariat. J'ai passé la nuit au commissariat.
Mm-hmm.
Lendemain matin, j'ai vu un inspecteur. J'ai déposé plainte. L'inspecteur, il a essayé. Il m'a dit, vous comprenez, madame, il y a beaucoup de femmes qui viennent, qui déposent plainte. Et puis après, il se remet avec mon mari. Et moi, j'ai regardé l'inspecteur, j'ai dit, vous savez, monsieur l'inspecteur, moi, je ne fais pas partie de cette femme. Moi, je ne mettrai jamais les pieds. Maintenant, si vous pouvez me donner un policier qui est avec moi pour que je prenne une valise de linge et je m'en vais encore avec la police. Et c'est où j'étais. Et que je suis partie, quoi, je l'ai quitté, je suis partie.
Oui.
Et le soir, j'avais un très, très bon docteur qui m'a fait entrer. Déjà, j'étais en arrêt de travail. Il m'a entré au hôpital, mais dehors de Marseille, et dans une autre ville.
D'accord.
Il m'a entré au hôpital, je me suis reposé, après je suis parti à la maison au repos, et après je suis parti chez ma mère, quoi, quelque temps, mais j'ai laissé toujours, j'ai mis une poste restante pour mes courriers, parce que je ne voulais pas, parler de, qu'ils sachent où j'habite. J'ai gardé des rentes, j'ai gardé le poste restant. Et j'ai jamais rien reçu du tribunal, de l'avocat, de lui. Si, de lui, par contre, j'ai reçu des lettres. À poste restant, j'ai reçu des lettres. Pourquoi tu es parti, ma chérie, ma biche, je n'ai répondu jamais sur les lettres.
D'accord.
Et puis le truc, je ne sais pas, il y a 15 jours, je suis entré pour faire un fibroscopie au hôpital, puis ça m'est arrivé un petit accident de parce qu'anesthésie, ça m'a mis en coma, et puis je suis resté 24 heures à réanimation, après en observation, en cardiologie. Et puis comme je suis entré chez moi, j'ai réfléchi, j'ai dit, mon Dieu, il m'arrive quelque chose, il faut que je finisse avec ça.
Mm-hmm.
Il faut que je finisse avec lui et tout ça. Et j'ai téléphoné ce matin à la mairie de Lyon, où on était mariés.
Oui.
Et c'est la mairie de Lyon qui m'a dit, voilà, madame, vous êtes divorcée de telle et telle date. Et je n'étais jamais convoquée avec personne. Il paraît qu'il est passé au tribunal à Marseille. Mais j'étais convoquée d'une part, de personne. Et je fais toujours déclaration d'impôt.
Oui, toute seule.
Hein?
Déclaration d'impôt toute seule sur votre déclaration à vous.
Ah oui, mais toujours sur le nom de mari.
D'accord.
Toujours sur le nom de mari, j'ai fait déclaration sur le nom de mari, j'ai fait le déclaration. Mais toujours que le mien, j'ai déclaré. Pas le sien, hein, c'est toujours, il y a que le mien. Et la sécurité sociale, j'ai le nom de son mari, la mutuelle, l'assurance de maison, tout ça. Mais jamais personne ne m'a dit quoi que ce soit, il a fallu que je téléphone ce matin à la mairie.
Et donc, en fait, vous n'êtes pas divorcé, c'est bien ça, en fait.
Et bien là, oui. Et là, oui, la mairie m'a dit que oui.
Ah, ça y est, la mairie vous a dit que oui.
Oui, ouais, la mairie m'a dit oui, il m'a donné même la date. Mais j'ai dit, mais alors, mais quelle preuve que j'ai? J'ai rien, j'ai aucun papier, tout ça, mais c'est vrai, elle m'a dit qu'il faut que je envoie une lettre que j'ai écrite à la mairie de Lyon, parce qu'on était mariés à Lyon.
Oui.
Et oui, oui.
Ben, je pense que là, maintenant, oui, il vous faut vraiment avoir un papier de la mairie de Lyon qui prouve que vous êtes divorcé, parce que vous voyez pas, vous pouvez vous retrouver avec des dettes. Il arrive quelque chose à ce monsieur demain, il peut vraiment vous arriver de devoir payer pour lui. Hein,
Voilà, c'est pour ça que je vous dis, parce qu'il y a beaucoup d'amis, j'en ai parlé avec mes amis aux entours et tout, et bien tout le monde qui me disait, fais attention, parce qu'il faut faire le crédit, il faut faire ça, et c'est pour ça que ce matin...
Ah bah bien sûr, surtout, ben oui.
Ce matin, j'ai téléphoné à la mairie de Lyon, où on était mariés, et la dame, elle m'a bien dit, ouais, je vois, je donnais la date du mariage et tout... Et ben oui, elle a trouvé, qui m'a dit, il est passé au tribunal de Marseille. Mais je dis, mais comment ça se fait que moi, j'étais pas prévenu de rien.
C'est très curieux que vous n'ayez pas été mise au courant, quand même.
Mais pas du tout, ça fait 40 ans, vous vous rendez compte?
Oh, ça me paraît incroyable. Incroyable.
Ben oui.
Donc, est-ce vraiment... Que lui, oui, allez-y.
Est-ce que lui, il a eu peur que, comme j'ai déposé, parce qu'il sait que j'ai déposé plainte, je suis parti avec la police. Et je suis revenu pour chercher un valise, de linge, j'ai tout laissé, mes meubles, tout, j'ai pris juste mon passeport, carte d'identité, papier sécurité sociale, et puis un petit peu de linge. Et je suis parti, et est-ce que lui, il était pressé de se divorcer?
Il y a longtemps quand même, il y a longtemps ça, vous me dites que ça fait plus de 40 ans.
Eh bien il y a 40 ans, mais il y a 42 ans que je l'ai quitté.
Ben oui, donc durant 42 ans, vous ne saviez pas que vous étiez encore marié avec lui.
Ben non, je vous dis que jusqu'à ce matin.
D'accord.
Enfin, hier matin plutôt.
Bon ben maintenant, de toute façon, alors, c'est que si la mairie vous a... en tout cas, si la mairie vous a dit que vous étiez divorcé, c'est que lui, il a dû demander le divorce maintenant, vraiment.
Oui, ce qu'elle m'a dit.
Donc maintenant, ce qui est important, par contre, c'est que vous ayez le papier officiel de la mairie de Lyon qui vous signifie le divorce, hein, surtout, hein, c'est très important.
Est-ce que je peux le prendre au palais de justice à Marseille, comme c'est arrivé à Marseille?
Alors ça, vous me posez une colle. Vous savez, je pense qu'il faut que vous appeliez le tribunal de Marseille et peut-être que eux vont vous expliquer exactement comment on fait. Parce que c'est plus eux hein, qui savent. Si la mairie...
Mais je ne comprends rien. J'ai reçu les lettres. J'ai reçu vous savez, une époque qui ont reçu un carnet pour rempli pour la santé, tout ça. J'ai même ça que j'ai reçu. J'ai reçu plein de courriers. Mais alors ça, j'ai jamais reçu de quoi que ce soit.
Le divorce. Donc ça me paraît incroyable cette histoire.
C'est la vérité pour moi.
Ah ben je veux bien vous croire que c'est la vérité.
Croyez-moi que c'est la vérité. Même ce matin que je téléphonais, enfin hier matin plutôt, parce qu'on est déjà ce matin, et que je l'avais dit à la dame à la mairie, je dis ma parole ça, je crois que je suis seul au monde d'où arriver des choses pareilles.
Ah ben oui, carrément.
Ouais. Et je lui ai dit, je téléphonerai, je lui ai dit que je téléphonerai chez vous. Ma parole.
Bah écoutez, moi ce que je vous conseille, c'est d'appeler le tribunal de grande instance de Marseille, et puis vous allez être dirigé vers quelqu'un qui va vous expliquer quelle démarche faire exactement pour récupérer le papier officiel du divorce. Hein ?
Eh ouais, parce que je n'ai pas ce papier.
Eh ben non, et il vous le faut absolument ce papier, Pesca. Il faut absolument que vous le récupériez, parce que ça vous protégera de vous voyez, de toute demande d'argent ou de dette. Vous savez, si ce monsieur à un moment va à l'hôpital ou il va dans un EHPAD, il faut que vous puissiez prouver que vous n'avez plus rien à voir avec lui. D'accord ?
Ouais. Bon, mon Dieu, comme ils vont savoir mes amis, parce que j'avais des amis qui étaient à Lyon et le mari de mon ami qui travaillait toujours dans la restauration. Et lui, il partait toujours manger chez eux. Et puis mes amis me disaient, il est venu manger au restaurant et puis, à la prochaine. Et puis, il ne payait pas. Hein. Et moi, je disais à mes amis, mais il a dit, tu sais que mon mari fait ça par rapport à toi, mais non, il faut qu'il fasse rien par rapport à moi.
Depuis
que je suis parti. Mais maintenant, ils sont plus là, ils sont partis, ils ont quitté la France, malheureusement
d'accord,
pour moi.
D'accord.
Ils ont quitté la France, ils sont partis en Croatie.
Bon, bah écoutez, en tout cas, vous le savez maintenant, il vous faut récupérer ce papier, Pesca, d'accord?
Ouais.
Bon, bah bon courage à vous, en tout cas.
Eh bien, merci beaucoup, Olivier.
Je vous en prie. Bonne
merci
soirée.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Vous êtes une équipe formidable.
Merci
formidable.
Beaucoup. Vous êtes très gentil. Merci.
Je vous écoute tous les soirs.
D'accord.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
Bonne soirée. Au revoir.
Laisse-moi zoom zen. Laisse-moi zoom zoom zen. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend dingue dingue dingue. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend dingue dingue dingue. Girl, t'es sexy. Viens voir Co City, original ragaman dans la ville de Paris. Girl, t'es jolie. Ton Versace, viens t'amuser avec un DJ top celebrity. Et c'est one push, carré sur le groove. J'aime les girls, surtout quand les girls move. Move up, move up. Rough comme une louve. Bouge ton corps de la tête aux pieds. Et là je t'approuve. C'est move up, move up. Girl, run ton body. Montre-leur que t'as pas peur d'exciter tous les bandits. Savoir-faire, t'inquiète pas, y'a pas de galère, je le dirai ni à ton père ni à ta mère. Ondule comme un ver de terre, jette-moi dans les yeux ton regard de panthère. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz. Quand tu prends ton bumper, ça me rend dingue dingue dingue. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz. Quand tu prends ton bumper, ça me rend dingue dingue dingue. Ouais. Tu explique-leur.
Ça se passe à l'arrière d'une Merco
Benz. Ouais, du côté de Saint-Denis. Baby, je te garantis qu'il y a des dingues de dingues. T'es ma mire, je suis la flèche que ton entrejambe attire. Amour de Lufia, on vivra en nous tous, toi et moi. Mais ce soir,
sur Europe 1 avec la reprise du groupe NTM. Benz, Benz, Benz. Il est 0h46. Vous êtes sur Europe 1, c'est la libre antenne et vous pouvez continuer à composer le 01 80 20 39 21. Je suis là pour vous écouter. Nous recevons Pascal maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Pascal.
Bonsoir.
Bonsoir, d'où m'appelez-vous et quel âge avez-vous Pascal?
Je suis dans le Tarn et j'ai 56 ans.
D'accord, de quoi voulez-vous me parler?
En fait, c'est par rapport à l'appel de Hélène tout à l'heure. Là,
oui.
Qui m'a fait réagir, même si on n'a pas la même histoire, en fait.
D'accord.
Parce qu'elle a été victime de violences physiques. Hein.
Oui, oui.
Et psychologiques aussi, je pense.
Mm-hmm.
Et moi, j'ai été surtout victime de violences psychologiques avec mon ex-conjoint, en fait.
D'accord. Vous l'aviez rencontré où, cet homme-là?
C'était pendant dans un pub, en fait.
D'accord. Et ça s'était en fait, bien passé au début?
Oui, mais en fait, ce dont je me suis rendu compte quelques années après, parce qu'on est restés 7 ans ensemble, c'est qu'en fait, il était quand même addict à l'alcool.
Oui.
Et au bout de quelques années, ça allait très bien. Et puis après, il a recommencé à boire beaucoup de whisky, en fait.
Oui.
Et être ingérable.
Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que ça n'allait plus quand il buvait, en fait, non?
Non, parce que ça pouvait durer, comme je le disais à Florian tout à l'heure, les nuits étaient très très longues, hein, parce qu'en fait, il tenait très bien l'alcool, et donc, il me posait des questions sur mes ex pendant toute une nuit, en fait.
Ah oui, oh là là, ouais.
Pour savoir qui j'avais été, avec combien et tout ça, et sur ma vie passée et tout.
Ouais.
Et moi, je dormais pas, j'attendais juste qu'il dorme, en fait. Qu'il pouvait arriver très tard, en fait.
Qu'il s'arrête.
Ouais, voilà, c'est ça. J'avais qu'une envie, c'est qu'il s'arrête.
Et en fait, ça pouvait durer combien de temps, tout ça?
Ah ben, c'était tous les jours.
Ah, tous les jours? Oh là là.
Bon, à l'époque, je travaillais pas, je m'occupais de nos deux enfants en bas âge.
Oui. Ah, vous avez eu deux enfants avec lui, quand même.
Oui, j'ai eu deux enfants, mais des enfants désirés, hein.
Oui, oui.
Et plein d'amour et tout ça. Mais quand il a recommencé à boire très fort, en fait, même lui, il n'arrive plus à se gérer, je pense. Donc, il est devenu très jaloux des personnes que j'avais pu connaître avant lui. Il faut dire aussi qu'on avait une grande différence parce que moi, j'avais 30 ans de moins que lui.
Oui.
Et après, il est devenu aigri. Il avait tendance à me rabaisser, en fait, devant les gens aussi. Moi, c'est comme... Enfin, Hélène, elle n'a pas subi la même chose, mais quand elle a dit qu'à un moment donné, pour elle, c'était bon, elle avait compris qu'il fallait arrêter tout, c'est là que je me suis retrouvée en elle, en fait.
Mm-hmm.
Parce que...
Vous vous êtes séparée de cet homme aujourd'hui?
Oui, bien sûr, heureusement.
D'accord.
Et c'est moi qui ai pris la décision. En fait, si vous voulez, à un moment donné, un soir, déjà j'en avais marre de ne pas dormir. Et aussi, je ne pouvais plus supporter cette situation, en fait, c'était pas possible. Donc, je suis descendue dans une cave, parce qu'on avait une cave par rapport à notre appartement. Et là, j'ai dormi dans la cave, parce que je voulais lui échapper, en fait.
Mais pourquoi? Parce qu'il était violent avec vous?
Non, pas violent physiquement, mais je voulais qu'il me foute la paix, en fait. Je ne voulais plus l'entendre, c'est ça surtout, je ne voulais plus l'entendre.
Ah oui, c'est ça, c'est il n'arrêtait pas, en fait.
Non, il n'arrêtait pas. Sauf quand il est vraiment trop bu, qu'il était vraiment très fatigué, là, il dormait. Mais sinon, non, c'était jusqu'au matin, quoi.
D'accord.
Du coup, quand j'ai été dans la cave, je me suis dit, non, c'est bon, là, je suis arrivée à un moment où c'est plus possible de vivre comme ça, en fait. Je me suis dit, c'est bon, là, je vais arrêter avec lui, et puis je vais commencer une nouvelle vie de mon côté.
Vous pensez que vous auriez pu, comme ça, retrouver une nouvelle vie, enfin, reprendre une nouvelle vie?
Ah oui. Ah oui, parce qu'avec lui, c'était infernal. Moi, je ne vivais plus, en fait. Donc moi j'étais là quand il était bien. En fait, quand il avait arrêté de boire, il était adorable.
En fait.
En fait, quand il rentrait à la maison de son boulot, en fait, bah, il commençait à boire du whisky, en fait. Et moi, je pouvais rien y faire.
C'est-à-dire qu'il était vraiment. Il était vraiment devenu addict au whisky tout le temps, en fait.
Mais en fait, je pense qu'avant de le rencontrer, il était déjà addict. Mais en fait, quand on s'est rencontrés, je pense qu'il s'est un peu calmé.
Oui.
Parce qu'il était content de m'avoir rencontré, moi aussi. Parce que je l'ai aimé, en fait, sincèrement.
Bah, vous avez quand même fait deux enfants, comme vous dites, Désiré. Il y avait quand même de l'amour entre vous.
Ah oui, il y a eu de l'amour. Jusqu'à ce que ça devienne pénible et puis que. Après que je me sente vraiment plus moi-même, en fait.
Oui, oui. Parce qu'il était jaloux, en fait, à vous poser toutes ces questions sur vos ex.
Ben oui, mais je pense que c'est l'alcool qui faisait ça, en fait, à mon avis.
Bien sûr, c'est l'alcool.
Ce qui m'a aussi humiliée, c'est que quand on rencontrait des gens, ou même des amis, en fait, c'est qu'ils racontaient notre vie sexuelle, hein, ces personnes. Hein.
Et ça, il le faisait quand il était sous, quand il avait bu.
Oui, je pense.
Parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous êtes séparés depuis combien de temps, tous les deux?
Ah, ça fait longtemps. Il est décédé, en fait, là, maintenant.
D'accord. Ah oui, il est décédé. Qu'est-ce qu'il est? À cause de l'alcool?
Non, il a eu un cancer du poumon, en fait.
D'accord. Il fumait beaucoup?
Oui, beaucoup, oui.
Quel âge avait-il quand il est parti?
72 ans, je pense.
62 ou 72?
72.
72, d'accord.
Ouais.
Mais... Vous voulez quelque part? Est-ce que vous avez une culpabilité de ne pas l'avoir sauvé? Parce que souvent, les femmes veulent sauver ces hommes-là.
Non, pas du tout. Hein.
Non.
Non, au contraire, pour moi, c'était une libération. Hein.
Ah oui, vous n'en pouviez plus, en fait.
Non, j'en pouvais plus. On est resté en bon terme après, par rapport aux enfants.
Oui.
Mais il était hors de question que je me remette avec lui, ça c'est clair.
La séparation n'a pas été trop compliquée, en fait.
Non, on n'était pas mariés, il a accepté. En fait, on n'a jamais reparlé en fait de violences psychologiques. On n'en a jamais reparlé, lui non plus.
Mm-hmm.
Parce que moi, j'estime que c'était des violences psychologiques parce qu'il n'arrêtait pas de me poser des questions.
Ouais, ça devait être pour vous pénible.
Pour lui, c'était une obsession, en fait.
Oui. Est-ce que vous avez...
Après, quand j'ai décidé d'arrêter, bah, c'est un peu par rapport à Hélène que je parle de ça. C'est que moi aussi, j'étais avec deux enfants. Avec des enfants, j'avais pas forcément de revenus parce qu'à l'époque, je les gardais à la maison. Et je savais pas trop comment j'allais m'en sortir. Mais,
comment avez-vous fait d'ailleurs quand vous avez décidé de quitter, comment avez-vous fait?
Bah, j'ai réussi à trouver un appartement quand même.
Oui.
Un petit appart. Avec mes deux enfants. Et puis après, ben, de temps en temps, ils allaient chez leur père. Le reste du temps, ils étaient avec moi, en fait.
Vous entreteniez quand même de bonnes relations avec lui, donc, au final.
Oui, du moment que je l'avais plus à la maison, ça allait, quoi.
Oui.
J'avais marre de subir, en fait. Je ne sais pas s'il y a des femmes qui ont connu ce genre de situation. On n'est pas forcément dans une violence physique, mais...
Sans doute dans une violence...
Je me sentais jaloux, en fait.
Oui.
Revenu parce qu'elle
est... Dans quelque chose qui est l'alcoolisme chronique, qui, passé une certaine dose, déclenche... ces questionnements-là, ce questionnement incessant qu'il avait vis-à-vis de vous, sur vos ex... Il avait presque besoin de se faire mal en vous parlant de ça, parce que en fait, vu qu'il le faisait et le refaisait, c'est pas normal de faire ça. Et si c'est arrivé souvent, c'est qu'il avait un vrai problème avec ça, en fait. Il était jaloux.
Je pense que c'est peut-être dû à la différence d'âge aussi.
Quel âge avez, vous aviez 20 ans de différence à peu près, hein?
30.
Donc, Oui, il avait besoin de se sécuriser, sans doute. Il avait besoin de savoir si vous étiez encore attiré par d'autres hommes plus jeunes que lui, sans doute.
Je pense, oui.
Mmh.
Mais bon, je l'ai passé, hein. J'ai jamais été... Ouais, j'ai jamais trompé, en fait. Mais au bout d'un moment, donc voilà, je pense que c'était le temps qu'il fallait pour qu'on se sépare, en fait. Donc, oui.
Et quel âge ont les enfants aujourd'hui ?
Ouais, ils sont grands, hein, parce que moi j'ai 56 ans, donc dans 24, 30 et 32.
Ah oui, d'accord, il y en a eu 3 en tout. Du coup.
Oui, j'en ai eu après avec une autre personne, en fait.
D'accord.
Voilà.
Bon, bah, écoutez,
en tout cas, ça me fait du bien de parler de ça parce que je pense que, quelle que soit la situation de la personne, il n'y a pas forcément que des violences physiques. Il faut aussi penser à des violences autres, donc psychologiques.
Mmh, monsieur, vous avez tout à fait raison d'évoquer d'autres formes de violence parce que il y a bien évidemment des hommes qui ne frappent pas, qui n'osent pas, mais par contre, parfois, il y a des mots qui font très très mal et qui sont d'une violence extrême et qui peuvent faire autant mal qu'un coup. Hein. Il y a des insultes qui sont terribles.
Et j'ai jamais été insultée, Olivier.
D'accord.
Mais quand il parlait, en fait, quand on avait on voyait souvent des amis, en fait, ou des faux amis, je sais pas. Mais quand il parlait de nos débats sexuels devant tout le monde, là, vraiment, j'ai été humiliée.
Ben oui, bien sûr. Mais il était ivre quand il faisait ça, non ?
Je pense, oui.
Ben oui.
Et ça reste, en fait. Donc, maintenant, il est décédé, c'est terminé, tout ça. Donc, mais en fait, je voulais dire aux femmes, il ne faut pas qu'elles attendent non plus qu'il se passe des choses comme ça, en fait.
Vous avez raison. C'est ce qu'il faut prôner, répéter. C'est que on ne doit absolument pas permettre la moindre violence, qu'elle soit physique comme psychologique. Je pense que au premier coup, aux premières insultes, il faut vraiment commencer à réfléchir et à commencer à établir un plan de repli, hein, voire de fuite. Mais comme Hélène l'a dit tout à l'heure, ça n'est pas toujours évident, hein, quand on est dépendante. Financièrement, hein, de monsieur, c'est souvent aussi difficile de partir. Hein. Mais de toute façon, c'est très difficile de partir, quoi qu'il arrive. En tout cas, merci Pascal pour votre témoignage.
Merci à toi.
Je vous en prie, puis dormez bien, faites de beaux rêves, d'accord ?
Merci, bonne soirée.
Au revoir Pascal, au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. J'espère que vous aurez passé un moment particulier. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment. Je n'ai pas vu le temps passer. Vous le savez, vous pouvez à tout moment laisser un message, hein, sur le 01 80 20 39 21, puisque Florian et Julia les réécoutent dès le lendemain. Quant à moi, eh bien, comme Laurent Pelé, je vais chevaucher ma moto et repartir dans la nuit froide parisienne. Je vous laisse, vous, bien au chaud chez vous.